de mieux. Donc on a avancé. Ça, c'était pour le petit coup de violon. Mais il faut travailler un petit peu. Voilà. Je crois que ce que je voudrais avec vous regarder, au moins aujourd'hui, avant de prendre la position, c'est de regarder des choses qui sont connues, hein, par les anciens, mais enfin, c'est toujours bon de se le rappeler, de se reprendre. Je crois que c'est Père Marie-Pierre qui commence à faire ça. La Très Sainte Trinité, puis la pyramide. Hein? Et puis, qu'est-ce qui a fait le petit séjour avec le Père Marie-Pierre à Bois-le-Roi, là? À deux. C'était à Dijon, hein, c'est ça. Donc, simplement, le truc classique, ce que je voudrais avec vous, c'est revoir les trucs classiques et les voir, mais très rapidement, parce que je vous en donne juste la table des matières. C'est pas vraiment exactement notre cible, mais si on ne met pas en place les choses, je crois qu'on ne pourra pas avancer. Et simplement, au niveau de l'amour, ordinairement, les sages, les philosophies, les experiences, n'est-ce pas, ont, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, des expérimentateurs, en français ça fait lourd. Bon, eh bien, on dit, bon, ben, l'amour, ben, faut le voir, voilà, ouais. Disons, il y a trois grands aspects dans l'amour. Trois grands aspects. C'est vrai qu'au fond, il y a trois grands aspects, c'est pas faux. Vous voyez bien, vous avez ce que je viens de vous faire jusqu'à maintenant, c'est le point de vue des trois aspects. Le point de vue des trois aspects, par lequel d'ailleurs, la Trinité toute sainte fait procéder d'elle-même une lumière d'amour qui permet l'unité dans l'ordre de l'amour. Donc je répète, la Très Sainte Trinité, c'est ça. C'est une vivante procession de lumière d'amour, donc une vivante procession de lumière d'amour qui permet l'unité d'amour. Une vivante procession, le Père, donc de lumière d'amour, le Verbe, qui permet l'unité d'amour, l'Esprit. Voilà les trois personnes de la Très Sainte Trinité. Bon, ces trois personnes de la Très Sainte Trinité qui impliquent, si vous voulez, le point de vue réaliste, c'est réel parce que c'est enraciné dans un principe personnel. Voilà. C'est contemplatif, le Verbe de Dieu, c'est contemplatif, c'est vrai. Et puis, c'est éternel. C'est le feu. Au fond, il y a le point de vue donc de l'esprit, vous voyez, l'esprit. Le point de vue donc de la personne, le point de vue de l'esprit, le point de vue de la contemplation, l'amour, et puis le point de vue du cœur. On aime avec ces trois. Un amour qui n'est pas contemplatif n'est pas un amour, quoi. C'est pour ça que c'est un petit peu embêtant aujourd'hui. Il faut, c'est quelque chose de très important pour notre vie humaine, je crois, bah, de savoir qu'on peut devenir contemplatif sans être cathos, quoi. Non, contemplatif, c'est pour les carmélites. Mais non, mais parce qu'elles sont cathos et qu'elles ont la vocation et que Dieu leur donne la grâce. Mais non, la contemplation, ça fait partie d'une vie humaine normale. Et la vie contemplative, c'est être capable, quand je suis face à quelqu'un d'autre, de saisir son mystère, de saisir lui, d'atteindre lui, de découvrir qui est l'être des choses, comment on dit ça. Ça, c'est l'intelligence, c'est la nature qui veut ça. Si tu veux être écologiste aujourd'hui, il faut être contemplatif. C'est l'écologie de l'humanité, ça. Il faut être contemplatif, alors il faut que tu sois une petite contemplative. Une grande contemplative. Grande contemplative. Il faut que tu sois dans le réel. Et enfin, il faut que tu aimes. Ça, c'est les trois grandes puissances de l'homme qui font qu'on est à l'image de Dieu. On est à l'image de Dieu parce que comme Dieu, on sait à partir de notre réel, c'est à partir de notre personne, qui est principe d'éternité, c'est à partir du point de vue spirituel et d'une vie contemplative qui va jusque dans la plus grande profondeur de la substance des choses, Et c'est le point de vue donc du cœur et de la volonté. Voilà les trois puissances de l'âme qui fait qu'on est au-dessus de la création habituelle. Parce que la lumière qui attire le diaphane cosmique n'a ni subsistance personnelle, elle n'est pas principe. Elle n'est pas principe. Hein, la lumière qui attire le diaphane cosmique est le but de toute l'ascension dans la bodhéité. N'est-ce pas? Les bodhisattvas. Et bien, il faut atteindre la lumière principielle. Mais la lumière principielle n'est pas principe. Le principe d'organisme. La folie, c'est pas principe. Elle n'est pas principe de vie, elle n'est pas principe. De... Ce qu'on voudrait faire croire avec l'évolutionnisme. La folie, c'est un principe qu'on que ton intelligence découvre par induction. Attention. Ah, attention, là, ça je passe. Ton intelligence. Qui fait que c'est un principe. Alors ça, c'est autre chose. Hein. C'est une opération d'intelligence dont le fruit est le principe que je découvre et je parle et que je prononce, que je nomme. C'est l'intelligence qui découvre un principe. Tandis que ici, je parle d'un principe qui existe. La lumière qui accuse la femme de la ce n'est pas principe. Elle est, c'est tout. Elle existe. Dieu l'a créée. Nous, les chrétiens, enfin les judéo-chrétiens, on sait qu'elle a été créée par Dieu, dit que la lumière est la lumière. Alors qu'il y a le temps et l'espace. Donc, enveloppant le point de vue du passé temporel, il y a quelque chose créé par Dieu. C'est pas Dieu. Mais qui n'est pas principe, c'est Dieu qui principe même après tout le reste. Et dans la mystique d'amour métaphysique, si tu veux, bah, il s'agit de retrouver une lumière qui était à l'origine seule, mais elle n'est pas principe, elle n'est pas source. Elle est inféconde, parce que c'est pas une lumière d'amour. Bon. Parenthèse fermée, Dieu, lui, c'est une personne, il est principe, il est contemplatif, il est feu. Voyez bien que du Père, Dieu, hein, hier j'ai fait un baptême, avant-hier, je ne sais plus, un baptême, et alors après, on a été cédés, la famille, il y avait des petites filles, des petits garçons, qui jouaient là-haut, et alors, ils m'ont fait monter, ils m'ont fait rentrer, il fallait monter, ben, alors je suis monté, et puis c'était caché sous les lits, etc. Lumière fermée, etc. Et j'étais là. Alors hop, je soulève le lit, ils étaient tous dessous. Ça hurlait là, et c'était cette fuite. Et puis, au milieu de cette espèce de brouhaha de fureur, les gens ils demandaient ce qui se passait en dessous. Dans le salon en dessous, je sais pas. Mais il y en a des enfants, les uns après les autres. Il me posait des questions. Un moment de silence, quoi, 15 secondes, pas plus, pendant que les autres continuaient à hurler, il y en avait une qui me posait des questions. Pourquoi est-ce que Dieu n'est jamais né? Pourquoi est-ce que Dieu n'est jamais né? Je dis, Dieu n'est jamais né? Mais si, parce que Dieu, il existe, hein, donc il a toujours existé. Et avant, quand rien n'existait, Dieu existait. Oh, elle dit, Et puis un autre, mais alors s'il n'est jamais né, il ne vit pas. Ils avaient quoi, 6, 7, 8 ans. Elle dit, mais bien sûr, à chaque fois que quelqu'un existe, il vit. Et quand tu vois quelqu'un qui vit, qui est personne, il existe. Et s'il a toujours existé, il vit toujours. Donc s'il vit, c'est qu'il naît. Mais si tu dis il est né, ça voudrait dire qu'avant, à un moment donné, il n'était pas né. Mais non, ça veut dire qu'il naît tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc Dieu, il existe, mais lui, ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il est toujours en train de naître. Alors il y a Dieu qui fait que Dieu existe et qu'il vit. Et puis il y a Dieu qui est en train de naître tout le temps et qui fait que Dieu vit et existe du coup comme Dieu vivant. Donc Dieu qui met au monde Dieu, c'est le Père, et le Fils, c'est Dieu qui est en train de naître tout le temps, le Verbe. Le Père engendre un Verbe. Et il est évident qu'il y a nécessairement un Verbe, sinon Dieu existerait sans vivre. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, en plus, c'est une aberration. Donc, il y a nécessairement une naissance éternelle en Dieu, qui fait que Dieu est toujours en train de naître. Et c'est pour ça qu'il y a Dieu le Fils. Et que Dieu donne toujours naissance à cette vie principielle d'abord. Et c'est pour ça qu'il y a Dieu le Père. Et donc, il y a deux personnes. Et on commence encore à hurler. Je sais pas, la mère demandait comment ça allait faire pour réparer les lits et tout. Et on continue. Mais c'est marrant, la petite conversation qu'on a après un baptême. Avec les enfants. Voilà. Et dit, ben oui, mais tu vois. Et donc, il y a deux personnes. Donc, ces deux personnes qui sont là, elles sont dans un face-à-face contemplatif. Et donc, c'est bien évident qu'elles ne peuvent que s'aimer dans une unité d'amour. Les deux sont totalement vaincus continuellement. L'amour de l'autre est beaucoup plus fort que celui de l'autre. Et pourtant, ton amour pour l'autre est plus fort que celui dont il fait partir le premier. Comprenez ? Alors, les deux meurent tout le temps. Il y a la vie, mais il y a la mort en Dieu, nécessairement. Les deux. L'amour va jusqu'à la mort parce que la vie est substantielle dans l'ordre de l'amour. Donc, l'actase est totale. Elle est substantielle. Quand une extase est substantielle, c'est la mort. Quand une extase est partielle, tu continues de vivre. Le jour où ton extase est substantielle, c'est la mort. En Dieu, l'extase est substantielle. Les deux, l'époux, le père, et l'épouse, le fils, meurent tout le temps. Et donc, il ne reste plus que cet amour entre les deux qu'on appelle l'Esprit Saint. Et qui fait qu'il n'y a plus qu'un seul amour, il n'y a plus qu'une seule réalité, il n'y a plus qu'un seul feu, il n'y a plus qu'une nature divine, il n'y a plus qu'une seule éternité, il n'y a plus qu'une seule réalité divine, il n'y a plus qu'un seul être au premier. Donc il y a un seul Dieu et trois personnes, ça ne peut pas être autrement. Là, l'amour donc est spirituel. L'amour nous fait sortir de nous-mêmes nécessairement, et il implique donc ces trois aspects. Donc voilà ce qui est en nous. L'acte créateur de Dieu, qui fait que je suis un être qui existe, fait poser la source, que la source, j'allais dire, de mon existence, est coadjacente à mon être. Et donc, ce principe-là est en moi. C'est à moi d'ouvrir la porte pour que cet amour m'envahisse. Bon, maintenant, cet amour va s'envahir d'une manière plus ou moins progressif, comme nous l'avons plus ou moins essayé de le voir. De toute façon, on expérimente bien que c'est petit à petit que l'amour s'approfondit et que notre maturité dans l'ordre de l'amour s'approfondit. On avait vu donc dans toute l'année, sur l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, non, c'était l'année précédente, sur les cycles, comment s'opérait cet approfondissement en fonction des victoires de la maturité humaine. La maturité de l'enfant, la maturité donc du pubère, la maturité de celui qui est adulte. Bon, et ordinairement, c'est notre problème, c'est que cette maturité de l'enfant de 6 ou 7 ans, nous mettons quelquefois 60 ans avant de l'acquérir. Mais normalement, à l'âge de 6 ou 7 ans, on devrait avoir cette maturité affective. C'est le problème, donc, de notre éthique d'il y a 2 ans. Donc, c'est bien, si vous avez du temps, de réécouter, n'est-ce pas, ces choses, je ne veux pas répéter. Ça n'a rien de tous les deux ans de faire la même chose. Il y a tout un point de vue, donc de vie spirituelle, le pneuma, pneumatique, spirituel. Bon, il y a des mots que... spirituel, bon, pneumatique. Évidemment, ça fait penser à Michelin, bon. Mais spirituel, vous savez, les gens, ils disent, spirituel, donc, religion, machin. Non, pas religion. Ça n'a rien à voir. Humain, vitalité humaine, la vie humaine, la vitalité humaine. Bon, contemplatif, si vous voulez, ça, c'est pas mal, mais enfin, contemplatif, pneumatique, spirituel, c'est la même chose. Humain. Voilà. Donc, il y a différents degrés de vie en nous. Nous avons des opérations de vie qui font vivre ce qui fait vivre un légume, ce qui fait vivre la sensibilité animale, ce qui fait vivre un homme qui est quelque part un organe végétatif. Nous sommes un espèce de légume, hein. Mais nous sommes un légume particulier, hein, c'est sûr. trois dimensions. Premièrement, l'image de Dieu avec la source. Deuxième aspect, les degrés de vie. Troisième aspect, les puissances. Mais vous avez encore un dernier aspect, mais là je ne peux pas faire un espace à quatre dimensions, où c'est trois, vous avez l'époux, enfin l'homme, la femme, l'unité des deux. La sensualité, c'est encore trois. L'amitié aussi. Vous qui aimez, l'autre qui aime et qui est aimé, et la réciprocité dans l'amour qui fait naître une nouvelle réalité qui est, qui est une nouvelle réalité. Bon. Alpha. Il y a trois. Quand j'aime, je disparais progressivement. L'autre disparaît progressivement. Il ne reste plus qu'une idée. Et ceci, c'est le fondement de l'esprit de Christ. S'il n'y avait pas le troisième, tant qu'il n'y a pas cette troisième réalité qui fait que l'autre disparaît, Dieu et moi-même aussi, disparaissant à mes propres yeux, je ne peux pas obéir. N'aime pas, n'obéit pas. Et quelqu'un qui n'obéit pas, n'aime pas. Mais voyez bien que j'obéis pas à moi, ce serait l'artiste, j'obéis pas à l'autre, ce serait la bêtise. Mais j'obéis surtout pas à l'autre. Ah oui, il m'obéit pas, donc il m'aime pas. Mais non, justement, c'est par amour que je t'obéis pas. J'obéis à l'unité éternelle des deux. C'est tout de même pas pareil. C'est une réalité, ça, cette unité des deux. Bon, donc vous voyez, ordinairement, souvent, classiquement, lorsqu'on fait on essaie de regarder l'amour humain, donc cette division, cette distinction trinitaire est hyper classique. Deuxième type de division, c'est en fonction des dimensions de l'homme. Alors, c'est pour ça que je voudrais que vous vous rappeliez, mais faites la recherche vous-même, parce que je crois que c'est facile pour vous. Donc, plusieurs manières de regarder. 3, 7, 12, 24, 33. Alors là, vous voyez, je viens de faire 3. Maintenant, autre manière de regarder l'amour, qui est assez classique aussi, c'est à partir du point de vue septiforme. Bon, c'est la personne qui est prise par l'amour et qui est attirée et déterminée par la présence d'une autre personne. Or, la personne humaine, donc, a sept grandes dimensions, comme vous le savez. Comme il y a sept grandes dimensions dans l'ordre de l'amour, il va y avoir donc une distinction qui va se faire, et qui est très classique. Lorsque je réalise cette rentrée, cet engloutissement dans l'apparition d'une métamorphose de mon être en personne humaine, mon être est créé par Dieu au départ, et je deviens une personne, progressivement. Et à un moment, je suis une personne humaine. Il vaut mieux que ce ne soit pas au bout de deux siècles de purgatoire. Il vaut mieux que ce soit tout de suite. Eh bien, la personne, elle est septiforme. Et donc, on peut regarder aussi donc, l'amour du point de vue donc, de cet aspect septiforme. Bon, ça, je peux vous retraduire. C'est le fameux tableau à sept colonnes. Vous l'avez ? Ou si vous ne l'avez pas, vous l'aurez. Je l'ai là, en tout cas, vous pourrez le prendre, ceux qui ne l'ont pas, n'est-ce pas ? C'est facile, voilà. Hop, tableau à cette colonne. Voilà, c'est hyper classique. C'est pour vous voyez. C'est table des matières. Table des matières. C'est uniquement table des matières. C'est pas une explication. C'est une table des matières. Voilà. Alors vous mettez la souris, vous mettez la flèche ici, et hop, sur le tableau de la window, vous avez à nouveau un truc, cette petite forme. C'est extraordinaire. C'est formidable. Bon, alors. C'est vrai. Bon, là, vous voyez, cette forme. Il y a sept dimensions dans l'homme. Sept dimensions dans l'homme. Alors, on regarde les sept types de nostalgie qui correspondent à la voix de l'amour qui me fait trembler dans tout mon corps, dans toute mon âme, dans tout mon esprit. Il y a ces sept nostalgies.
par exemple. Bon, il y a la progression de l'amour. L'amour commence par, un, s'imposer à moi. Deuxièmement, j'en prends conscience. Troisièmement, quand je l'assume, je transforme cet amour qui s'impose à moi en intention de vie. Quatrièmement, je prends du coup du recul et je prends conseil. Quelqu'un qui ne demande jamais conseil, hein, ce qu'il n'aime pas. Ce n'est pas toi, l'artiste, qui va aimer. Donc, il va falloir que tu demandes conseil. Tu peux demander conseil au Saint-Esprit, par exemple. Conseil à ceux qui aiment. Bon. Donc, tu vas demander conseil. Sur l'ensemble des conseils qu'on te donne, tu vas essayer de discerner tous les moyens qui sont. Quels sont les moyens qui sont les plus adaptés à la fin que tu as choisie. Et il va falloir que tu choisisses le moyen. Bon, et puis sixièmement, du coup, tu décides de prendre ce moyen, tu t'engages. Et septièmement, tu en jouis. Voilà les sept étapes de l'amour. Tout acte d'amour passe par ces sept étapes. Tout acte d'amour passe par ces sept étapes. Vous l'avez ici. Vous vous rappelez quand on a fait les structures d'intériorité il y a 3 ans, on avait regardé attentivement dans les structures d'intériorité l'intériorité de l'amour, de celui qui aime. Vous vous rappelez de ça? On avait regardé que intérieurement on est mu par des mystiques, des intercœurs. Il faut discerner ces 5 grandes vitalités intérieures qui s'entremêlent. Et parmi ces 5 grandes vitalités intérieures, il y a la vitalité de l'amour, qui a sa progression, qui est septiforme. Pourquoi est-ce qu'il y a une progression septiforme dans l'ordre de l'amour? Parce que l'amour doit traverser ma vie. Ma vie traverse tous les degrés de mon être, corps, âme, esprit, n'est-ce pas? Et par conséquent, toutes mes dimensions, c'est toute ma personne qui est prise. Ma personne dans sa dimension d'enracinement, dans la nature corporelle, il existe, il est enraciné dans le monde, et donc il est bon, très bien. Deuxièmement, je suis capable d'être par rapport à ce monde source de transformation. Je prends donc ici, je suis ici ces transformations en intention donc de vie. C'est parce que je suis capable, moi aussi qui suis spirituel, de donner à l'amour spirituel une réponse spirituelle. Donc le bien est transformé en saint. Intention de choisir de donner ma vie à cet autre-là. Bon, il y a du recul. Pourquoi? Parce que j'ai une vie intérieure et que je suis capable de peser, de prendre du recul, de retrouver une liberté profonde et d'illuminer mon choix de l'intérieur. Pour que ce soit toute mon âme qui se livre. Cinquièmement, j'ai une intellect pratique. Je suis capable donc de coopérer avec l'humanité tout entière, ceux qui sont proches de moi. Je prends conseil et mon intelligence pratique me permet de m'engendrer tout ça dans la douceur. Je prends conseil. C'est le point de vue social, si vous voulez, familial, de la coopération. La dimension de l'homme qui est en 6, quand je décide de m'engager, alors ça, c'est le point de vue donc de la liberté. Et puis enfin, le septièmement, c'est le point de vue donc de la jouissance dans l'ordre de l'amour. C'est les 7 dimensions de l'homme qui sont là. C'est vrai, l'homme, il a un corps. Il est un corps. Il est dans le cosmos, c'est un petit cosmos, c'est naturel, l'amour. Et lui, nous avons une dimension de réalité naturelle. Notre réalité est naturelle. Et nous sommes dans la nature. Bon, nous sommes des artistes, deuxième dimension de l'homme. Alors, en tant que tel, si vous voulez, je suis le roi de l'univers. Avec mon petit cosmos, je récapitule le cosmos. Donc, j'en suis responsable. Voilà. Deuxièmement, je suis un artiste. De là jaillit en moi mon génie propre. Je prends du recul et je suis capable, du coup, de transformer ce bien en saint. Pourquoi? Parce que dans la troisième dimension, je suis contemplatif. Donc je suis capable de voir l'autre, qu'il est mon bien, de contempler ce bien et de faire qu'il le devienne jusque dans ma personne et devient ma fin. Ça, c'est la contemplation qui fait ça. Bon, le quatrièmement, Le quatrième aspect, c'est que j'ai une vie intérieure, j'ai une âme. Donc j'ai une vie intérieure. Du point de vue de la vitalité intérieure, qui est là, l'âme. Bon, ici dans le cinquièmement, je suis, fais partie d'un corps mystique. Je fais partie de famille, je fais partie, on est sept dans la famille. Hein, et je fais partie de famille, c'est mon rôle. Voilà, donc quand j'aime, je dois tenir compte un petit peu de tout. Le sixième aspect, c'est du point de vue de la liberté. Et donc, du point de vue de ma dimension anagogique, comme vous avez entendu dans le texte tout à l'heure, n'est-ce pas, anagogique, du point de vue de la transcendance et de la présence de la possibilité d'éternité qui est en moi, parce que je suis enraciné dans le temps à partir de l'éternité créatrice. Et donc, quelque part, je suis capable de liberté créatrice du point de vue et de l'éternité aussi. C'est la grande liberté de l'homme, c'est qu'il est un être sacré et religieux. Et capable d'éternité. Enfin, septièmement, c'est un être, il a un cœur, il est capable d'aimer. Il fuit l'amour, la fruition. Vous voyez, c'est assez classique, ça. C'est à cause des sept dimensions de l'homme, c'est les sept rails à travers lesquels je suis au-dessus de l'hippopotame. Bon, et ça, il faut le saisir. Or, l'amour, nécessairement, prend tout. Et travers progressivement dans son acte d'amour, c'est cette étape. Si je me rends compte que j'ai une réticence énorme à passer par exemple par les cinq et ces trois étapes, 3, 4 et 5, il faut que je me pose un petit problème. Et je dois me poser des questions, un petit examen de conscience, n'est-ce pas ? En disant, est-ce que c'est vraiment la jouissance de l'amour que j'ai ici ? Et est-ce que je suis vraiment libre dans mon amour ? Que je suis relié à l'éternel amour, si effectivement je brûle ces étapes que je ne rien et je ne prends jamais conseil. Je refuse, j'aime et c'est tout. Et puis je vérifie moi-même et je vérifie moi-même. Et puis je fonce. Ah, attention, qu'est-ce qui se passe, c'est ça? C'est intéressant. Vous voyez ce truc septiforme. Sainte Thérèse d'Avila, lorsqu'elle va essayer d'exprimer l'amour dans son cheminement vers l'union transformante, les sept demeurent. Les sept demeures de Sainte Thérèse d'Avila, ça c'est sûr, mais vous voyez qu'il y a une analogie entre ce qui se passe dans l'union transformante par la grâce surnaturelle et ce qui se passe dans un amour naturel. Il y a une analogie, c'est évident. Vous pouvez transposer ce que dit Thérèse d'Avila dans le point de vue de l'union transformante dans le point de vue surnaturel à ce qui se passe dans l'amour naturel, l'amour humain, l'amour d'amitié. C'est les mêmes étapes d'intensification. Ça, c'est classique aussi. Donc, c'est classique de faire une petite distinction dans le point de vue de l'amour par le point de vue septiforme. D'accord ? C'est pour ça qu'au terme, dans le christianisme, il va y avoir les sept dons du Saint-Esprit. Et pour que le Christ nous rende la possibilité d'aimer dans ces sept caves de l'amour, dans ces sept robinets, dans ces sept, je sais pas quoi, de l'amour, eh bien, il fait sept sacrements. Jésus institue sept sacrements à cause de ça. Parce que Jésus est rédempteur. On est malade. Il fait un rédempteur. Et c'est mon rédempteur. Je constate que de l'amour, j'y arrive pas vraiment. C'est pas tout le temps, ce qu'ils intensifient. Je le constate à un moment donné. Oui ou non? Si je le constate, alors deux solutions. Ou bien je dis, finalement, comme me disait quelqu'un il y a 4 ou 5 jours, très sympathique d'ailleurs, on dit, je ne dis pas ça, mais pourquoi? C'est normal, parce que je ne suis rien. Donc, je n'ai pas besoin de tout ça. Il disait, je n'ai pas besoin de tout ça, sacrement, machin, ma femme elle m'embête. C'est sacrement machin, moi j'en veux pas le sacrement machin, un truc comme ça. Oui, mais enfin quand même, tu veux quand même arriver à ce qu'elle désire, tu veux son bien quand même. Hein. Tu veux son bien. Oui, je l'aime, d'accord, mais moi je suis rien. Donc comme je suis rien, je constate. Donc, puisque je ne suis rien, je n'existe pas. Si je n'existe pas, je n'ai donc pas besoin de sacrement. Donc, il faut que je réalise la réalité. Voilà, il m'a dit, texto ça. Donc, il faut que je réalise la vérité. Et la vérité, c'est que je n'existe pas et que je ne suis rien. Et donc, j'ai besoin de rien. Mais je l'aime. Ah, je dis, bah, c'est bien ça, oui. Alors, si tu es rien, tu permets, si tu es rien, si tu n'existes pas, si tu permets, je vais causer avec ta femme. C'est ce que je lui dis. Je dis, puisque tu es rien, que tu n'existes pas, je vais causer avec ta femme. Ouais, parce que tu m'avais dit juste avant, ouais, tu ne viens jamais nous voir. Non, je suis, puisque tu n'existes pas. Je ne vais pas voir quelqu'un qui n'existe pas. Moi, j'aime. Tu constates en tout cas que tu n'aimes pas, puisque tu vois que tu n'as rien. Mais, ou alors, du moins, tu atteins ta perfection en voyant que tu n'as rien. Très bien. Mais ta femme et moi, nous constatons, nous, autre chose. Moi, je constate que j'existe et qu'elle existe. Et deuxièmement, que je l'aime et elle m'aime aussi. Bon, peut-être qu'elle t'aime aussi un peu, eh. Mais... mais en tout cas que notre amour ben, qu'on n'arrive pas et qu'on est rempli de péchés. Regarde tous les péchés que cette merveille du monde qui est là a commis. Si vous saviez tout mon père. Alors je dis, moi aussi, je suis rempli de péché, c'est pour ça que j'ai besoin du Rédempteur. J'ai besoin d'un Sauveur. Hein. J'ai besoin de Jésus, moi. Jésus, il vient, et j'ai besoin d'un sacrement parce que là, il vient réellement, personnellement, substantiellement. Réellement.
Alors, je sais pas, c'est pas par théâtre, hein, mais... je sais pas, c'était instinct, c'était pas instinctif non plus, ça s'est imposé à moi. Je me suis jeté à ses pieds, le mec était gêné. Je tenais ses pieds. J'ai besoin de lui. Vous me voyez. Ah. Toi, t'en as pas besoin, mais moi, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un Rédempteur. Alors, c'est marrant parce que, à un moment, il avait dit juste avant, il avait dit, avant de dire qu'il sait rien, il dit, hein, toi, enfin, tu sais pas, tu es comme moi. Il dit, non, moi, il faut le sacrement, hein, je veux me marier, tout ça, sacrement, s'arrêter, tout ça. Et au moment où elle a dit ça, c'est la première fois que je vois ça. J'avais vu ça à la télé une fois, mais... avec le chocolat l'an 20 de Salvatore Dali, vous rappelez. Il avait des sourcils, c'est un bel homme d'ailleurs, un très bel homme. Et il avait des sourcils, au moment où elle dit ça, ses sourcils qui étaient là, ils sont restés là. Alors, quand j'étais à ses pieds, j'ai besoin d'un Rédempteur. J'ai besoin. Regardez, c'est... Vite, attendons que ça revienne. Ah, c'était impressionnant. Hein? C'était vraiment impressionnant. Alors, mais oui, c'est curieux. Il ne pouvait même pas avoir conscience de sa réaction dans tout amour. La preuve, c'est qu'il a fait une réaction somatique. Parce que quand on fait une conversion somatique, vous savez que c'est le signe qu'il est impossible qu'on ait conscience de ce qui se passe en nous. Une conversion somatique, c'est une réaction psychique inversée, muée dans le corps, pour que je ne puisse pas comprendre ce que je suis en train de dire. Et dans quoi je suis en train de réagir. C'est ça une conversion métaphysique, une conversion somatique. Hein? Et ça, c'est quand même très curieux que sa conversion somatique soit ici, la claque. Hein? C'est ça, avec la puissance de Dieu, vous ne savez pas tout ce qu'on peut faire. Avec le... mais en tout cas, oui, on a besoin d'un Rédempteur. Et c'est pour ça donc que Jésus donc, institue ses sacrements. C'est le sujet que nous étudions donc, cette année sur le dimanche. Parce que il faut tout de même que cet amour-là aille jusqu'au bout. Ah bien sûr, je me constate que ça n'arrive pas, que de temps en temps, je coince, hein, j'arrête, je ne diminue pas dans l'ordre de l'amour, je ne peux pas diminuer dans l'ordre de l'amour, c'est impossible.
l'amour ne diminue jamais. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas une cause imminente. Et tous ceux qui ont fait l'expérience de l'amour savent que quand ils reprennent 20 ans après un amour initial, par exemple, j'étais divorcé, ou je sais pas quoi, puis on se retrouve, on le reprend au degré où on l'avait laissé. Pas besoin de reprendre à zéro. On se reprend à l'endroit où on l'avait laissé. L'amour ne s'arrête pas. Si, il s'arrête d'augmenter, de s'intensifier, mais son degré d'amour est indestructible. C'est éternel, l'amour. Il y a quelque chose qui fabrique avec l'éternité, l'amour. N'est-ce pas? Alors, c'est pour ça, c'est très intéressant le point de vue de 7. Alors, il y a 7 sacrements et ils vont nous régénérer et faire qu'on peut aller avec cette espèce d'union totale avec Jésus, qui est possible par le point de vue donc surnaturel des sacrements, qui on peut aller jusqu'au bout des exigences de l'amour humain, mais du coup, en plus, surajouter avec un amour qui est un amour mystique, surnaturel et qui implique la vision béatifique. Alors, donc maintenant, il y a donc d'autres divisions dans l'ordre de l'amour. Bon, écoutez, ceux qui veulent avoir le tableau, qui l'ont jamais eu, montrez-moi le doigt un peu. Et tout de même. Bon, alors, donc, je vais vous en passer. Blé dans ce format-là, mais c'est pas le même.
Ah bon?
Pas tout à fait. Non, parce que là, je n'ai pas dessus, par exemple, les qualités de l'amour. Bon, néanmoins, je fais quand même pour terminer, puisqu'il me reste 5 minutes. L'aspect, je passe les 12. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas y échapper. Je passe les 12 et on va regarder 24. Mais, vous voyez, on l'avait déjà vu, c'est pour ça que je vais faire ça rapidement. C'est le point de vue, donc, des qualités de l'amour. Le Christ est là, n'est-ce pas? Si le Christ est là, c'est-à-dire l'homme capable, parce qu'il est tout à fait substantiellement et vitalement uni à l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Et à cette espèce de trinité agissante dans le temps, et de manière efficace, donc. Alors, le Christ, vous le savez, c'est donc 8-8-8. Donc, voilà, il va y avoir 24 qualités de l'amour qui vont apparaître. On va essayer de les discerner. 3 fois 8, 24. Les 24 qualités, c'est classique aussi, mais je me contente simplement de vous les énumérer. D'ailleurs, vous pouvez petit à petit le voir, c'est très intéressant à regarder. Vous le lirez sur le tableau à 7 colonnes, il y est, dans la ligne où on voit les modalités de l'amour. L'amour a des étapes, l'amour a des structures, l'amour a une vitalité, l'amour a ses lois, l'amour a ses exigences, mais l'amour a ses modalités. C'est immense, si vous préférez. Alors, on en distingue 24. Mais je vais vous les donner, vous voyez, dans. Et finalement, quelque part, ces 24 sont assez liés aux étapes qu'on avait vues précédemment. En fait, il y a une modalité qui est celle qui est analogique avec la première personne de la très sainte Trinité, celle qui est analogique avec la seconde personne de la très sainte Trinité, celle qui est analogique, qui permet la correspondance avec la troisième personne de la très sainte Trinité, et puis environ 3 fois 3 modalités, puisqu'il y a 3 aspects. Vous ne pouvez pas en trouver un 25e. Si un 25e, il doit certainement se résoudre à un des 24 autres. Et si on ne se met pas à faire le poème. Alors, vous le lirez, mais vous y réfléchirez. Vous y réfléchirez. Parce que selon que vous ressentez plutôt tel ou tel type de modalité dans l'ordre de l'amour, ça vous fait comprendre, peut-être, que vous êtes plus dans telle structure, voyez, volonté, intelligence, liberté, ou dans telle dimension de l'homme, ou dans telle étape. C'est pas mauvais comme discernement aussi, ça. C'est le petit critère de discernement que je vous donne. Petit à petit, quoi, il faut qu'on puisse arriver. Je ne dis pas qu'on y arrive d'un seul coup, mais au moins on essaie de commencer. C'est le but de notre recherche qu'on fait ensemble. Alors, oui. Il y a trop de trucs dans ce machin. Alors, Première qualité, les modalités de l'amour. Vous le verrez, ceux qui prendront leur tableau, c'est à peu près les sept sacrements. Après, il y a les sept béatitudes évangéliques, les sept dons du Saint-Esprit, les sept symbolismes du Saint-Esprit, et du coup, les modalités correspondantes de l'amour. Non, il n'est pas sur ce tableau-là. Et sur le tableau que nous faisions dans les années 90. Ça, c'est le tableau des années 91-12. Les modalités correspondantes. D'abord, l'amour implique une modalité de profondeur. Ça, c'est bien de les noter. Notez-les, vous les noterez et vous réfléchirez. À quoi votre expérience d'amour, étant donné que je vous ai déjà signifié depuis le début, si vous pouvez, des textes qui, ou des une petite recherche qui vous permet de savoir de où vous avez aimé et où cet amour demeure. Cette expérience de l'amour, là, vous essayez de la regarder aujourd'hui et voir quelle est la modalité qui apparaît le plus, la profondeur. L'amour est profond. Ou bien, deuxième modalité, la jalousie. L'amour est jaloux. Il est dévorant. Il veut tout dévorer. La force d'unité. D'ailleurs, la jalousie et la force d'unité, c'est très proche. C'est une force d'unité. C'est la jalousie d'amour, c'est pas la jalousie péché, hein. Attention, hein. La jalousie d'amour. C'est cette espèce de l'amour qui cherche à être entièrement uni à l'autre. À être entièrement englouti dans un amour vrai. Bon. Nouvelle modalité, la souplesse. C'est les artistes, ordinairement, sont très souples. C'est la souplesse dans l'ordre de l'amour. La véhémence. La force de conquête. Ah oui, tout ça, c'est trois qui sont assez caractéristiques de ceux qui ont un amour qui essaie de prendre conscience de lui-même avant de choisir. C'est certain. Mais ça reste l'amour. Vous verrez que, du point de vue donc de la décision de donner sa vie à l'autre parce que je l'ai trouvé et je vois que c'est vraiment une personne, c'est excellent. J'ai saisi son mystère et donc je choisis comme mon plein. Enfin, pardon. Alors à ce moment-là, il va y avoir une nouvelle modalité. Pénétration intérieure. L'amour est pénétrant. Pureté. L'amour est pur. Lucide. Dynamisme, mais attention, c'est dynamisme violence. C'est une violence dynamique, une dynamique violente. Une dynamique. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, la véhémence. La véhémence, c'est. L'amour est véhément, ça veut dire que. Il insiste. Tu vois? Tandis que quand tu dis dynamisme violence, c'est que l'amour a une puissance en soi qui lui permet d'ailleurs d'être pénétrant. Pas tout à fait la même chose. Bon, tout ça, c'est des nuances, hein, mais n'empêche qu'elles sont, l'air de rien, elles ont leur importance. Alors, il va falloir incarner cet amour. D'ailleurs, tu es responsable de tout amour, tu es responsable de ce que tu fais, tu es responsable de la création tout entière, tu es responsable de la présence de l'amour dans la nature, d'amour et de la présence de la source de l'amour qui est Dieu. Alors, si tu as ce sens-là du corps et de la nature, que tu es roi de la création, si tu as ce sens du corps, si tu as ce sens très incarné, si tu es un bon écologiste, hein, alors, voilà, cet amour est très écologique, alors il surabonde, surabondance. L'amour a cette modalité de surabondance, surabonde. Un amour incarné surabonde toujours. que disait Marie-Aimée tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour que ça surabonde dans la réciprocité? Il faut qu'il soit incarné. Il faut incarner cet amour dans des actes, dans des gestes concrets, dans des humbles, et qui impliquent, et ça s'enracine dans la pureté, puisque vous voyez bien que le point de vue de la pureté est antérieur, dans la lucidité, dans la pénétration. Et s'il y a ça, à ce moment-là, il peut y avoir surabondance. L'amour implique une modalité de présence. Par l'amour, tu es présent à l'intérieur de l'autre. Par l'amour, l'autre que tu aimes est présent à l'intérieur de toi. Modalité de présence. C'est marrant d'ailleurs, tu t'endors le soir, mais je l'aime. Et quand tu dis je l'aime, tu as bien la nette que c'est, qu'il est là. Il est là, en toi. J'ai l'impression qu'il est là à côté de toi, c'est autre chose. La fécondité. L'amour a une modalité de fécondité. Ça aussi, c'est quelque chose qui implique le point de vue donc du quelqu'un qui a le sens du corps, du soleil, du cosmos, des fleurs. Tu mets des fleurs. Enfin, quand on introduit Marielle, on met beaucoup de fleurs. Alors, si ton amour est très vivant, très intérieur, du point de vue de la dimension de la vie et de l'art, il y a des gens qui n'ont aucune vie intérieure, cette dimension-là. C'est un grand vivant. Et cette vie est une lumière qui active tout ton diaphane intérieur. C'est d'une richesse, la lumière. Dans le tas de l'ego, c'est extraordinaire. Très intérieur. Toutes les demeures de l'âme sont illuminées. C'est très intérieur. Alors à ce moment-là, il va y avoir, ton amour impliquera une immense douceur. Et aussi une ferveur. Vous voyez bien que le texte que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un texte où on passe de la ferveur à la sainteté. Donc c'est intérieur, ferveur. Et du coup, il est vulnérable. Il est vulnérable. L'amour est vulnérable. On devient vulnérable. Si notre amour est très intérieur, vous voyez, toute notre âme, toute notre vie qui est engagée, alors à ce moment-là, toute une très grande profondeur, très intime, de toute notre vitalité, notre âme, alors à ce moment-là, on devient vulnérable. L'amour peut nous blesser à mort. Cet amour fait peur, quelquefois. Ah, alors, si maintenant, cet amour est humain, en ce sens que il va être rédempteur pour tous ceux qui sont proches de moi. Il va être locomotive, fusée qui emporte tout le monde, l'humanité, la famille, mes proches, dans une espèce d'élévation, si vous voulez, hein, point de vue donc de la communauté du corps mystique. Bon, alors à ce moment-là, l'amour va avoir une modalité de d'harmonie. Moi, je me rappelle que quand j'étais dans les études secondaires, il fallait toujours que mon frère Simon me donne un coup de pouce pour que je passe dans la classe supérieure. Et puis, arrivé vers la classe de première, j'ai dû me séparer de la classe de mon frère. Là, les curés, ils ont dit non, là, faut pas pousser, il est nul, il n'aura pas son bac, donc il passe, ça passe, et qu'il fasse, enfin, qu'il fasse pas Mathélène, qu'il fasse son sexe. Alors, je suis passé en D. Mon frère passé en C. Et puis, arrivé en terminale D, il y avait en terminale A une petite jeune fille très sympathique. Et puis, un jour, je me suis dit, j'en peins pour elle. Et j'ai eu 19 de moyenne en maths. C'était pas mal, c'était le premier de ma classe. Je disais, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrivais pas à comprendre comment je pouvais avoir de si bons résultats. Donc, bref. Donc, efficacité. C'est du coup, tout marche. Le reste marche. Vous comprenez? C'est pas parce que je mets toutes mes billes dans l'amour que du coup tout le reste, du coup, ça marche plus. Oui. Alors, efficacité. Nécessité. L'amour est nécessaire. Je peux pas vivre sans. C'est nécessaire pour le monde, pour l'humanité qui est l'amour. Bon, enfin maintenant, pour le point de vue, donc, ce sens de la présence du Créateur pour quelqu'un qui adore et qui sait qu'il est en lien avec son Père, avec son Créateur, et du coup, il est capable de contempler l'un créé dans le créé, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, il y a ce sens du sacré, de la vie mystique, de cette liberté activée par une liberté supérieure. Alors à ce moment-là, la modalité va impliquer l'extase. Souvent, les gens ont perdu l'expérience d'un amour extatique, c'est parce qu'ils n'adorent plus leur Créateur. L'effacement. L'effacement. L'amour fait que je m'efface. Et d'ailleurs, mon Créateur s'efface aussi. Ça. Bon. Il y a... Oui. Donc, et puis, l'amour, donc, est... brûlant, c'est voilà pour l'esprit saint, les trois derniers, ou les trois premiers tout à l'heure. L'amour est lumineux, transpirant. Et puis enfin, l'amour est éternel. Il y a un point de vue d'éternité. Il y a une odeur d'éternité dans l'amour. Voilà.